Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Docteur Alain Braconnier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un nouveau livre, Le meilleur thérapeute, c'est vous. Alors, dire que vous êtes psychiatre, psychologue, responsable de formation au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, auteur de grands succès, notamment Protéger son soi pour vivre pleinement en 2010, Les filles et les pères dont nous avons parlé ensemble, c'était en 2007, et Mère et fils en 2005, et beaucoup d'autres livres, mais j'ai souligné ceci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'objet donc de ce livre, le titre c'est « Le meilleur thérapeute, c'est vous », et si c'est peut-être en continuité avec le livre « Protéger son soi pour vivre pleinement » qui est paru en 2010, chez Odile Jacob.
Oui, en effet, il y a une continuité, heureusement, dans ce que je peux penser de l'aide qu'on peut apporter aux autres dans les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. Évidemment, les difficultés plus de leur manière de voir les choses, de leurs sentiments, de leurs pensées, que des difficultés purement physiques. Et que c'est vrai que il y a aujourd'hui incontestablement une façon d'aborder ces difficultés-là, différentes d'il y a 40 ou 50 ans. Nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup le sentiment que l'on peut chercher un mieux-être à travers des approches que l'on peut avoir par soi-même, avoir par l'aide de coach ou de personnes qui cherchent à aider les autres, et aussi par évidemment les professionnels que je suis et que nous sommes, qui doivent aussi être présents pour ceux qui n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes ces possibilités d'aller mieux. Ça, c'est une première raison. L'autre raison, c'est qu'en effet, justifié justement par cet intérêt pour des approches que chacun cherche par lui-même, pour lui-même, il y a une manière d'aborder ces difficultés qui fait, quelle que soit au fond cette manière, par soi-même ou par un professionnel du mieux-être ou par un psy professionnel, eh bien beaucoup des effets de la manière d'aborder les choses reposent sur au fond la bonne relation qu'on a avec celui qui vous aide. Alors quand c'est soi-même, il vaut mieux avoir une bonne relation avec soi-même pour s'aider, c'est-à-dire bien savoir de quoi il s'agit, essayer de prendre son temps pour y penser un peu. Quand c'est quelqu'un d'autre ou vraiment un psy, c'est tout aussi important que cette relation soit bonne et qui compte beaucoup sur le résultat. Toutes les études, ça, plus scientifiques, l'ont montré. Donc, c'est la deuxième raison. Et puis, la troisième raison, c'est, je crois que il y a sans doute quelque chose qu'on oublie peut-être trop, c'est que chacun, au fond, se connaît bien, ne se connaît pas totalement. Nos métiers, en particulier par l'approche de la psychanalyse, nous ont appris que nous avions un inconscient qui pouvait avoir une action sur notre manière de penser, d'agir, d'être. Mais en général, on se connaît bien et on sait quelles sont nos fragilités, quelles sont aussi nos ressources, et que donc s'aider par soi-même, c'est, je crois, par ça qu'il faut commencer, à condition de bien se connaître, d'accepter de s'auto-évaluer pour se soigner d'abord de façon plus naturelle, je dirais. Vous savez, il y a 83% des Français qui sont plutôt, un sondage l'a montré récemment, qui sont plutôt favorables aux méthodes naturelles. Alors, pourquoi, au fond, 83% certains se trompent sans doute parce que les méthodes naturelles ont aussi leurs limites. Les aides que l'on peut recevoir de certains peuvent être dangereuses. Il faut faire attention aux charlatans. Mais ça montre aussi qu'il y a un vrai mouvement vers ce qui peut nous amener à mieux prendre soin de nous. Et au fond, tout le monde est gagnant. Les personnes, parce qu'elles s'occupent d'eux-mêmes et de façon à ce qu'elles cherchent ce qui leur fait du bien. Les professionnels, coachs, etc., parce que ils ont quand même comme éthique, en tout cas les gens compétents, de faire ce qu'il faut pour aider les autres. Et puis les professionnels, bien évidemment, ils ont fait des études longues pour essayer d'apporter un mieux-être aux autres, et ils sont aujourd'hui assez débordés en termes de demandes, et que au fond tout ça fait que tout le monde est gagnant.
Alors, docteur Alain Braconnier, est-ce que vous pouvez revenir sur le terme thérapeute? Qu'est-ce qu'un thérapeute? Et si on est encouragé à s'occuper de soi-même, est-ce que c'est une méthode sûre que d'être son propre thérapeute? Nous ne sommes que des amateurs en psychologie, psychiatrie et autres connaissances. Et ensuite, il y a le problème du diagnostic. Si par exemple j'ai des petits soucis, je me dis « Oh, c'est sûrement ça !» Et me voilà, moi qui suis complètement profane et puis amateur, je vais m'attacher à me remettre sur celle. Alors, est-ce que... donc, qu'est-ce qu'un thérapeute? Et moi, profane et amateur, est-ce que je peux oser m'occuper de moi si j'ai des soucis?
Oui, oui. Thérapeute, c'est prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre, c'est-à-dire, évidemment, il y a une profession qui est destinée à ça, les médecins, les psychologues, dans le domaine plus de ce qu'on appelle la santé mentale, ce sont des thérapeutes. Et puis, il y a des thérapeutes qui se désignent ou pas comme thérapeutes, mais qui ont des méthodes qui, au fond, relèvent de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, depuis que le monde est monde, probablement, en tout cas très précocement, des personnes désignées par la société pour aider les autres, le groupe, à travers des méthodes d'influence, de suggestion, qui existent d'ailleurs encore dans certaines cultures et qui peuvent être tout à fait, je dirais, reconnues comme étant une aide par ceux qui, au fond, y croient. Et puis, il y a soi avec soi-même, c'est-à-dire être dans le souci de prendre soin de soi. Et puis, il y a un critère très simple. On essaye, ça marche. On n'essaye pas, ça ne marche pas. Mais si on essaye et que ça marche pas, c'est qu'il faut aller vers quelqu'un de plus compétent ou de plus spécialisé. Donc, il y a des degrés. On n'est pas en face d'une fracture de jambe. En face d'une fracture de jambe, personne ne doutera qu'il faut un chirurgien qui va vous prescrire un plâtre ou une intervention. Il n'y a pas de doute là-dessus aujourd'hui. Mais dans ce qui concerne tout ce qui est du domaine, au fond, de l'âme, au fond, de ce qui est l'esprit, de tout ce qui est la pensée, de tout ce qui est les émotions, c'est beaucoup plus complexe de désigner ce que on peut d'abord ressentir soi-même. Et pour ça, justement, il y a une étape primordiale sur laquelle j'ai insisté dans ce livre, c'est qu'il faut d'abord se poser la question de ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive comme ça, depuis combien de temps, quelles en sont les raisons. Et à partir de là, on va avoir une première approche, à condition de bien faire cette auto réflexion sur soi-même, cette entre guillemets auto-analyse, on va pouvoir choisir ce qui nous convient le mieux. Et puis après, ça nous convient et ça marche très bien. Ça nous convient pas et ou ça ne marche pas. Eh bien, on va vers quelque chose qui est évidemment sans doute plus professionnel et donc exercé par des personnes dont c'est le métier.
Alors, docteur Alain Braconnier, vous qui, après plus de 40 ans de pratique, appelez les psys à la modestie en leur rappelant que plus que la méthode employée, c'est la qualité d'écoute qui compte. Comment est-ce que vous qualifiez, comment est-ce que vous analysez cette qualité d'écoute du thérapeute par rapport à son patient ?
Oui. Alors, c'est pas que moi. Hein. Ce sont des études qui l'ont montré, que ça compte beaucoup plus qu'on ne le pensait, au fond. Du côté des professionnels, des psy-professionnels, on pensait que ben, on avait la meilleure technique et puis que l'autre l'avait moins. Enfin, il y avait des rivalités, dont se plaignaient d'ailleurs les personnes qui disaient chacun c'est un peu sa chapelle et puis la défend de façon peut-être parfois excessive. Donc, il y a eu vraiment des études qui ont montré que quelles que soient les approches, il y a 30 à 50% des résultats dans notre domaine, dans le domaine psy, on va dire au sens très large du terme, qui repose sur la relation avec celui ou celle, bien évidemment, qu'on rencontre. Alors une fois de plus, ça peut être soi-même. C'est-à-dire si on a suffisamment de confiance dans ce qu'on peut s'apporter à soi-même, si on reprend confiance dans l'aide que l'on peut, sans égoïsme, sans narcissisme excessif, mais avec une certaine, disons, distance vis-à-vis de ce qui serait magique. Vous êtes gentil de rappeler que ça fait 40 ans que j'exerce ce métier et je crois je n'ai jamais eu de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a parfois des choses qui surprennent tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Mais il n'y a pas de recette miracle. Alors ça, ceux qui croient aux recettes miracles, ou ceux qui vous font croire qu'ils ont une recette miracle, faut un peu s'en méfier, ou même beaucoup s'en méfier. Alors ça, c'est une première raison que mon expérience m'a amené à dire les choses comme ça. La relation à l'autre est très importante. Et cette relation à l'autre, elle repose sur quoi ? Eh bien, elle repose sur l'écoute. C'est-à-dire comment s'écouter, savoir s'écouter, prendre le temps un peu de s'écouter et évidemment écouter l'autre quand on est là pour prendre de soin de l'autre. Donc les deux appuis qui au fond au fil des années sont devenus pour moi des piliers fondamentaux, c'est un, établir une bonne relation, ce qu'on appelle dans un domaine un peu plus professionnel l'alliance thérapeutique, et sans séduction excessive, mais avec vraiment une attention à l'autre, avec en développant une certaine empathie pour l'autre, une capacité de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et on peut le faire avec soi-même, ça. Et d'autre part, s'écouter, écouter ce qui ne va pas. Au fond, il y a toujours plusieurs personnages en nous. On a toujours plusieurs personnages. Ben, faut que le personnage qui ne va pas bien, qui est trop stressé ou qui répète un peu toujours les mêmes erreurs, ben faut l'écouter, y compris en se disant mais au fond qu'est-ce qui fait que je répète toujours un peu, je fais ces erreurs. Puis si on n'y arrive pas, ben à ce moment-là les professionnels sont là, ils sont nécessaires parce que ils ont vraiment fait des études qui fait que on ne peut pas bien évidemment éliminer leurs compétences.
Vous proposez d'éclairer le chemin pour prendre soin de soi en distinguant, vous l'avez dit, trois moyens de devenir son propre thérapeute. L'autoprescription, une méthode auto-soignante synonyme de liberté, mais aussi de responsabilité vis-à-vis de soi. Responsabilité vis-à-vis de soi, c'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à grand-chose, carrément changer de trottoir et aller chercher un coach.
Exactement. Et puis on peut aussi s'appuyer sur ce que les autres vous disent. Ils ne vous disent pas forcément que des choses qui sont à côté de la plaque ou par agacement ils vous disent bon bah t'as qu'à aller mieux. Oui, d'accord, mais comment ? ou les autres savent aussi vous dire, écoute, c'est sur ce point-là que tu peut-être aurais à travailler toi-même ou te faire aider.
L'autoprescription, une méthode auto-soignante synonyme de liberté, mais aussi de responsabilité vis-à-vis de soi. Responsabilité vis-à-vis de soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'acharner à essayer de se remettre en forme soi-même, qu'il faut quand même oser trouver un coach capable d'initier une méthode d'apprentissage qu'on s'appropriera ensuite. Donc le coach, c'est un relais momentané, puisqu'après on est invité d'utiliser cette méthode du coach pour continuer à prendre soin de soi tout seul. Est-ce que c'est oui, ça
c'est... Oui, c'est très important ce que vous dites là, parce que on oublie qu'au fond, dans ce domaine, le but de la méthode qu'on utilise, y compris les professionnels, quelle que soit l'orientation, qu'elle soit psychanalytique, cognitive ou comportementale ou autre, MDR, etc. Il y a aujourd'hui beaucoup de méthodes. Eh bien, le but d'un bon thérapeute, ça j'en suis profondément persuadé, c'est d'apprendre à l'autre à fonctionner de telle façon qu'il peut devenir peu à peu, grâce à l'aide qu'on leur apporte en tant que professionnel, leur propre thérapeute. Moi, je suis d'orientation psychanalytique, mais je suis pas fermé aux autres approches. Il y en a qui peuvent tout à fait être utiles. Mais le but d'un travail analytique, psychanalytique, donc on est vraiment dans quelque chose de très professionnel, très très précis. Eh bien, le but, c'est que le sujet devienne son propre analyste, c'est-à-dire qu'il apprenne à penser sur lui comme l'analyste lui a appris à apprendre à penser sur ce qui peut se passer dans son esprit ou dans ses sentiments.
Alors, un psychothérapeute, est-ce que vous pouvez nous éclairer ce terme ?
Oui, le psychothérapeute, c'est aujourd'hui, nous sommes dans la lignée des chamans, vous savez. Nous sommes des personnes qui sommes désignées par la CIOCST, nous sommes des tiers sociaux au fond, qui sont là pour aider au fond ce qui se passe dans notre esprit. Et que psychothérapeute dit bien ce que ça veut dire, c'est thérapeute de la psyché, du psychisme, de l'esprit. Ce domaine est un domaine qui est complexe, qui n'exclut pas d'ailleurs que tout esprit est sous-tendu par un cerveau, donc à certains moments, il faut savoir associer avec un médicament, dans des cas particuliers, dans des dépressions graves, par exemple, c'est important qu'il y ait un médicament, mais bien évidemment, c'est important aussi que la personne puisse parler de tout ce qui, dans ce moment-là, lui apparaît négatif. Donc le psychothérapeute, c'est vraiment un thérapeute de ce qui est l'esprit et de ce qui au fond fait que nous sommes humains, c'est-à-dire que nous avons une complexité quand même assez importante de la manière de voir les choses, différente selon les uns et les autres, et que cette manière-là, eh bien, elle va être évidemment, nous pouvons nous les rassembler un peu par catégorie, mais les catégories, ça n'est qu'une catégorie. Au fond, c'est guérir par l'esprit. Ce que nous cherchons, c'est guérir par l'esprit. Et guérir par l'esprit, c'est quelque chose qui est, une fois de plus, inscrit dans l'histoire de l'humanité. Nous avons d'autres moyens de guérir par l'esprit. Nous avons bien évidemment des moyens, symboliques, importants. La religion guérit. Un certain nombre de personnes, on le sait maintenant, les études l'ont montré. De façon vraiment très différente, le sport guérit. L'activité physique guérit. L'esprit, je dis bien l'esprit. On voit bien qu'il y a beaucoup de possibilités pour essayer d'aller mieux, Parfois, on arrive vraiment à des blocages. Alors là, il faut vraiment un travail très précis, très professionnel. Mais on a aussi... Moi, je suis frappé aujourd'hui de voir combien les personnes qui viennent me voir en tant que professionnel, je suis psychiatre, psychologue, psychanalyste, 40 ans d'expérience, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, en même temps, ils vont aller faire un peu de yoga, ou ils vont aller courir deux matinées par semaine, ou ils vont écouter de la musique, et que ça leur fait du bien. Ce n'est, l'un n'exclut pas l'autre.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger pour la personne qui est mal en point et qui va chez un coach, un thérapeute, et est-ce qu'il n'y a pas un danger d'endoctrinement et de fusion, puisqu'il y a un qui est supérieur, qui est la science, qui est là pour me dénouer mes nœuds, et que je suis mal en point, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre la puissance de l'un, le sachant, et l'autre qui vient mal en point, qui a besoin d'être aidé? Est-ce que ce danger est fictif ou est-ce qu'il est réel?
Ah, il est réel. Il est réel, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où, une fois de plus, on est quand même dans une relation humaine et qu'il y a un danger de devenir dépendant ou de se soumettre. Au fond, lorsqu'on a affaire à des personnes qui ne sont pas honnêtes, à leur influence et à leur besoin de soumettre l'autre à ce qu'ils veulent leur dire ou leur transmettre, ou leur faire faire d'ailleurs, il y a un danger. Il y a une nécessaire disharmonie entre un thérapeute et quelqu'un qui souffre. On n'est pas au même niveau. Et c'est pas une question d'inégalité, c'est une question que l'un apporte à l'autre ce qu'il attend comme soulagement. Mais si jamais on tombe dans quelque chose qui est beaucoup trop, dominant, beaucoup trop captivant pour l'autre, ben on fait le contraire de ce qu'on cherche. On cherche à rendre l'autre libre, le plus libre possible. Et là, on le rend prisonnier de ce que l'on veut pour lui. Et c'est vrai que dans mon métier, j'ai vu aussi des situations de ce type et qui étaient vraiment au détriment des personnes qui en étaient la victime.
Alors, quels sont les problèmes que vous rencontrez de façon courante? Il y a le stress et il y a aussi ceux qui remettent les pieds dans les mêmes flaques, qui répètent toujours les mêmes erreurs. Ça aussi, c'est un souci. Il y a aussi une possibilité pour quelqu'un de s'empêcher d'exister vraiment, puisqu'il y a l'éducation, il y a la religion, il y a beaucoup de garde-fous qui sont des garde-fous. C'est-à-dire, ça empêche les gens de s'exprimer, ça empêcherait les gens de s'exprimer. Donc, il y a plusieurs sortes de problèmes rencontrés que vous évoquez dans votre livre passionnant, Le meilleur thérapeute, c'est vous, qui paraît aux éditions d'Ile Jacob. Il y a la dépression, il y a aussi le fait de comment ne plus procrastiner, comment avoir aussi une meilleure estime de soi.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'exprimer ce qu'on appelle aujourd'hui son mal-être. Il y a différentes manières, que ces différentes manières prennent des formes, donc des plaintes, et sont à l'origine de plaintes différentes. Quelqu'un qui est déprimé va dire « je n'ai plus envie de rien, je me sens incapable, je suis triste, je prends plus de plaisir à rien ». Quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui est toujours dans le doute de ce qu'il fait et qui est toujours... prêt à répéter les mêmes gestes ou les mêmes pensées parce qu'il n'arrive pas à avancer, à décider, à faire des choix. Il y a des personnes qui sont quand même en plus grande difficulté de réfléchir un peu sur eux, de ce qui se passe, et qui passent trop facilement à l'acte en faisant des bêtises. Donc il y a vraiment des formes assez différentes, que on connaît bien évidemment dans notre domaine, et que ces formes différentes, elles renvoient toutes quand même à un point commun, c'est l'angoisse humaine. C'est-à-dire l'être humain est habité par une angoisse qui va être plus ou moins importante, qui va être plus ou moins relation avec le monde qui entoure la personne va être évidemment plus ou moins importante selon son histoire personnelle. Quand on a été traumatisé, quand on était enfant, quand on a été subi plusieurs maltraitances ou plusieurs abandons, eh bien, il est bien évidemment qu'on n'a pas les mêmes ressources que quand on n'a pas eu ces expériences malheureuses et qu'il faut ultérieurement, évidemment, essayer de les retrouver, de les retracer, d'en retracer les origines et d'en, évidemment, de les aborder différemment. Donc, le point central, c'est l'angoisse humaine, mais ça appartient, au fond, à l'histoire, là aussi, de l'humanité. Et il n'y a pas que les psys qui s'intéressent à l'angoisse humaine. Il y a les philosophes, les écrivains, toutes les personnes, au fond, qui s'intéressent à l'autre.
Alors, vous proposez aussi, pour nous aider à nous prendre en main, nous, le patient pas très lourd, pas très grave, on peut essayer de s'occuper de soi. Donc, vous proposez des solutions naturelles relaxantes. Elles peuvent être artistiques, elles peuvent être ludiques, elles peuvent être corporelles même, comme la marche, comme le sport. Et puis, vous proposez aussi vous désinhiber la personne par rapport à son envie de trouver des pistes pour s'en sortir. Par exemple, les gris-gris, avoir recours à un chaman. Donc, ce que nous sentons comme pouvant être une possibilité pour nous de sortir du marasme psychologique dans lequel nous sommes, vous êtes pour?
Oui, je suis pour, mais vous savez, je suis pour pourquoi? Parce que, d'abord, aujourd'hui, on est quand même confronté, par exemple, aux médecines douces. Le nombre de personnes qui s'appuient sur ce qu'on appelle les médecines douces, eh bien, elles sont extrêmement nombreuses. Donc, c'est pas la peine de les empêcher ou de vouloir à tout prix empêcher les personnes d'essayer de trouver leurs propres moyens. Vous parliez des gris-gris. Eh bien, les gris-gris, ils existent aujourd'hui. Il y a des gris-gris, il y a des bagues pour mieux dormir, il y a des objets comme ça qu'on va tenir dans sa main, qui on peut y donner du sens, on peut trouver que c'est un objet transitionnel, mais bon. Tout ça, ça a existé depuis toujours, ça existe encore aujourd'hui, et il n'y a aucune raison d'empêcher les personnes d'utiliser ce type de moyens. Après, toute la question est de savoir si ça suffit ou pas. Et en effet, selon les degrés de difficulté que la personne rencontre, eh bien, il y a des moyens différents. On ne va pas soigner une petite coupure avec un acte chirurgical grave, mais s'il y a une vraie fracture, il vaut mieux aller voir un chirurgien. C'est la même chose. Mais c'est la même chose dans tous les domaines, au fond. On va voir quelqu'un qui correspond à ce qui peut nous apparaître nécessaire pour nous. Ça peut être nous-mêmes. Mais il faut avoir aussi la modestie de se dire que pour certains domaines, on ne peut pas s'aider soi-même, en tout cas au départ, et qu'il y en a d'autres qui sont là pour vous apprendre à vous aider.
Alors, docteur Alain Braconnier, dans ce livre, Le meilleur thérapeute, c'est vous, qui paraît aux éditions Odile Jacob, pour faire une conclusion, est-ce que vous pourriez nous donner le mot de la fin? Quelle qualité pour être un bon thérapeute, et aussi mentionner ces questionnaires que vous publiez donc dans ce livre et qui visent à quoi?
La bonne qualité pour être un bon thérapeute, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui nous arrive, c'est-à-dire de s'interroger, de prendre un petit peu de temps, pas besoin de procrastiner sur ses malheurs, mais de prendre un peu de temps pour s'interroger. De demander aussi un petit peu aux autres ce qu'ils en pensent. Au fond, nous sommes des sujets sociaux et nous avons besoin des autres, les liens avec les autres comptent, et que à partir de là, je crois être suffisamment à l'aise pour se dire ben, c'est peut-être ça qui va me convenir. Et donc, à ce moment-là, on l'essaye. Et avoir la modestie que si ça ne marche pas, ben, on va voir quelqu'un qui est plus compétent. C'est au fond, c'est assez simple. Mais c'est pas si simple que ça quand on a des a priori. C'est-à-dire, et c'est ça que ce livre est vraiment tourné vers cet esprit-là, c'est dommage de voir les a priori qu'on a contre telle ou telle approche, ou telle technique, ou telle ou telle, les médecines douces, c'est complètement nul, ou les psys, ils vont nous compliquer la vie. Enfin, tout ça, c'est des a priori dont il faut essayer de se dégager pour simplement avoir suffisamment confiance en soi pour se dire on a des difficultés, on veut s'en sortir, on va essayer de trouver le meilleur moyen et puis on va essayer parce qu'il nous convient le mieux. Puis si ça nous est avec la personne qui nous convient le mieux.
Docteur Alain Braconnier, je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé pour nous ce livre « Le meilleur thérapeute, c'est vous » et qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. À bientôt, merci.
À bientôt, merci. Qui va être plus ou moins en relation avec le monde qui entoure la personne, va être évidemment plus ou moins importante selon son histoire personnelle, quand on a été traumatisé, quand on était enfant, quand on a été subi plusieurs maltraitances ou plusieurs abandons, eh bien, il est bien évidemment qu'on n'a pas les mêmes ressources que quand on n'a pas eu ces expériences malheureuses et qu'il faut ultérieurement, évidemment, essayer de les retrouver, de les retracer, d'en retracer les origines et d'en, évidemment, de les aborder différemment. Donc, le point central, c'est l'angoisse humaine, mais ça appartient, au fond, à l'histoire, là aussi, de l'humanité. Et il n'y a pas que les psys qui s'intéressent à l'angoisse humaine. Il y a les philosophes, les écrivains, toutes les personnes, au fond, qui s'intéressent à l'autre.
Alors, vous proposez aussi, pour nous aider à nous prendre en main, nous, le patient pas très lourd, pas très grave, on peut essayer de s'occuper de soi. Donc, vous proposez des solutions naturelles relaxantes. Elles peuvent être artistiques, elles peuvent être ludiques, elles peuvent être corporelles même, comme la marche, comme le sport. Et puis, vous proposez aussi vous désinhiber la personne par rapport à son envie de trouver des pistes pour s'en sortir. Par exemple, les gris-gris, avoir recours à un chaman. Donc, ce que nous sentons comme pouvant être une possibilité pour nous de sortir du marasme psychologique dans lequel nous sommes, vous êtes pour?
Oui. Oui, je suis pour, mais vous savez, je suis pour pourquoi? Parce que, d'abord, aujourd'hui, on est quand même confronté, par exemple, aux médecines douces. Le nombre de personnes qui s'appuient sur ce qu'on appelle les médecines douces, eh bien, elles sont extrêmement nombreuses. Donc c'est pas la peine de les empêcher ou de vouloir à tout prix empêcher les personnes d'essayer de trouver leurs propres moyens. Vous parliez des gris-gris, eh bien les gris-gris, ils existent aujourd'hui. Il y a des gris-gris, il y a des bagues pour mieux dormir, il y a des objets comme ça qu'on va tenir dans sa main. On peut y donner du sens, on peut trouver que c'est un objet transitionnel, mais bon. Tout ça, ça a existé depuis toujours, ça existe encore aujourd'hui, et il n'y a aucune raison d'empêcher les personnes d'utiliser ce type de moyens. Après, toute la question est de savoir si ça suffit ou pas. Et en effet, selon les degrés de difficulté que la personne rencontre, eh bien, il y a des moyens différents. On ne va pas soigner une petite coupure avec un acte chirurgical grave, mais s'il y a une vraie fracture, il vaut mieux aller voir un chirurgien. C'est la même chose. Mais c'est la même chose dans tous les domaines, au fond. on va voir quelqu'un qui correspond à ce qui peut nous apparaître nécessaire pour nous, ça peut être nous-mêmes, mais il faut avoir aussi la modestie de se dire que pour certains domaines, on ne peut pas s'aider soi-même, en tout cas au départ, et qu'il y en a d'autres qui sont là pour vous apprendre à vous aider.
Alors, docteur Alain Braconnier, dans ce livre, Le meilleur thérapeute, c'est vous, qui paraît aux éditions Odile Jacob, pour faire une conclusion, est-ce que vous pourriez nous donner le mot de la fin? Quelle qualité pour être un bon thérapeute? Et aussi mentionner ces questionnaires que vous publiez donc dans ce livre et qui visent à quoi?
La bonne qualité pour être un bon thérapeute, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui nous arrive. C'est-à-dire de s'interroger, de prendre un petit peu de temps, pas besoin de procrastiner sur ses malheurs, mais de prendre un peu de temps pour s'interroger, de demander aussi un petit peu aux autres ce qu'ils en pensent. Au fond, nous sommes des sujets sociaux et nous avons besoin des autres, les liens avec les autres comptent, et que à partir de là, je crois être suffisamment à l'aise pour se dire c'est peut-être ça qui va me convenir. Et donc, à ce moment-là, on l'essaye et avoir la modestie que si ça ne marche pas, on va avoir quelqu'un qui est plus compétent. C'est assez simple, mais c'est pas si simple que ça quand on a des a priori. C'est-à-dire, et c'est ça que ce livre est vraiment tourné vers cet esprit-là, c'est dommage de voir les a priori qu'on a contre telle ou telle approche, ou telle technique, ou telle ou telle... les médecines douces, c'est complètement nul, ou les psys, ils vont nous compliquer la vie. Enfin, tout ça, c'est des a priori dont il faut essayer de se dégager pour simplement avoir suffisamment... confiance en soi pour se dire on a des difficultés, on veut s'en sortir, on va essayer de trouver le meilleur moyen et puis on va essayer par ce qui nous convient le mieux. Puis si ça nous est avec la personne qui nous convient le mieux.
Docteur Alain Braconnier, je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé pour nous ce livre Le meilleur thérapeute, c'est vous et qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. À bientôt, merci.
À bientôt, merci.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah!